Les propos qui vont suivre peuvent être difficiles et font état de situations de souffrance. Si une personne de votre entourage ou vous-même pensez au suicide, appelez le 3114, numéro national de prévention et d'écoute.
J'essaie de comprendre en fait ce qui amène le jeune Drake qui sont obligés de s'inscrire.
C'est
Pensez
les suicides.
Bienvenue dans la série PLS, Pensez les suicides. Issu du séminaire de recherche organisé en 2024 sur l'approche critique de la mort volontaire, cette série vise à réfléchir aux pensées contemporaines du suicide. Dans cet épisode, nous allons réfléchir aux liens qui unissent les conduites suicidaires et les violences de genre, c'est-à-dire les violences que certaines personnes subissent à cause de leur identité genrée. Le genre, c'est un rapport social catégorisant les identités selon leur sexe, assigné à la naissance de manière binaire, c'est-à-dire qu'on pense les humains en tant qu'hommes ou femmes, et par conséquent, on suppose des caractéristiques physiques ou de comportements précis. Les recherches l'ont pourtant montré, et pour paraphraser Simone de Beauvoir, on ne naît avec un genre, on le devient. Ainsi, les violences fondées sur le genre servent à maintenir cet état de fait comme des moyens de contrôle social des corps et des identités genrées. Nombreux chercheurs et chercheuses montrent que cette bicatégorisation entre hommes et femmes, produite par des rapports sociaux de domination, exclut de fait celles et ceux qui ne sont pas dans ces catégories. Les personnes transgenres, qui ne se reconnaissent pas dans le genre assigné à la naissance, au contraire des personnes cisgenres, en font partie, et subissent de nombreuses violences comme un rappel à la norme genrée. Dans son rapport de 2022, SOS Homophobie décrit qu'en un an, les témoignages de transphobie ont augmenté de 27%. Refus de soins, de servir la clientèle ou de respecter le genre d'un élève à l'école, SOS Homophobie montre qu'au quotidien, cette violence révèle le fait que la société ne prend pas en compte leur existence. Les conséquences de ces violences sont visibles, mais s'inscrivent aussi profondément dans le temps, conduisant les personnes trans parfois jusqu'au suicide. En effet, elles ont jusqu'à 10 fois plus de risques de se suicider que les personnes cisgenres. Parmi les jeunes trans de 16 à 26 ans, 69% ont déjà pensé au suicide, contre 20% chez les jeunes en général. Le phénomène a les mêmes tendances au niveau mondial. Pour en parler, nous recevons Laurence Lamarche, doctorante en géographie au sein du laboratoire Passage à l'Université Bordeaux-Montaigne. Sa thèse, intitulée « Géographie des violences vécues par les jeunes sans-abri LGBTQ+, interroge les espaces de violences subis par ces jeunes au travers d'une ethnographie d'une association d'aide aux jeunes sans-abri LGBTQ+.
Laurence Lamarche, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de participer. Et d'abord, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu le cadre de votre recherche et le phénomène que vous avez étudié ?
Oui. Alors, merci de me recevoir. Je travaille sur la question des jeunes LGBTI+, donc lesbiennes, gays, bisexuels, trans, intersexes et toute autre identité de genre non normative, qui sont sans domicile. Et la thèse porte précisément sur leur trajectoire. Et j'ai donc réalisé une ethnographie au sein d'une structure qui a à charge cette population. Je suis devenue bénévole et les méthodes de collecte de données, c'était l'observation participante et des entretiens. J'ai rencontré 85 personnes, dont 36 jeunes, et j'ai réalisé 26 entretiens. Après, ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a aussi c'est une division un peu artificielle entre les entretiens et l'observation participante, parce que pour certains jeunes, comme c'est une population qui est très difficile à rejoindre, les informations étaient un peu similaires entre ce que je voyais dans les observations, ce qui m'était dit dans les moments conviviaux avec les jeunes et pendant les entretiens. J'ai aussi interrogé des travailleurs sociaux et des bénévoles principalement. Voilà, dans les trajectoires, il y avait beaucoup de violence. Ça, c'est quelque chose qui est ressorti. Et du coup, ce qui en a découlé de ça, c'est aussi qu'il y avait des comportements autodestructeurs ou des comportements suicidaires, des idées suicidaires, tout ce qu'on peut mettre dans ce genre de catégorie.
Et pour revenir un peu sur votre terrain, votre ethnographie, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'association dans laquelle vous étiez bénévole?
Oui, donc ça s'appelle Le Refuge. Il y a 20 dispositifs en France par rapport à cette fondation. Et moi, l'ethnographie, c'était au sein du Refuge de Bordeaux, qui est composé d'une équipe de bénévoles et d'une travailleuse sociale. Donc, je suis restée comme bénévole dans cette association pendant un an et demi, où je faisais des accompagnements, où j'étais sur place lors de moments conviviaux, un peu dans le quotidien des jeunes. J'étais appelée aussi, par exemple, pendant certaines urgences, à aller au sein de l'appartement, parce que l'appartement des jeunes est... il y a l'association, il y a l'appartement où les jeunes habitent de façon autonome, ensemble. Du coup, j'étais appelée à certaines urgences, par exemple, à visiter leur appartement. Donc, je partageais une espèce de quotidien avec eux. Je les voyais plusieurs fois par semaine. Et la structure accompagne les jeunes dans un tremplin pour trouver un logement et un emploi.
Et le jeune, il reste alors en moyenne combien de temps chez vous?
Normalement, c'est 6 mois. C'est pour ça que j'utilisais le terme tremplin. C'est 6 mois, ce qui est assez court pour gérer un peu tous les traumas vécus et déjà trouver un logement en ayant une identité LGBT, trouver un emploi en ayant une identité. Après, il y en a qui restent un peu plus longtemps, ça dépend. C'est un peu du cas par cas. Il y a aussi des jeunes qui sont des demandeurs d'asile. Et eux, en fonction des démarches, disons, légales, parfois, ils sont amenés à rester un peu plus longtemps. Des fois, ça double même jusqu'à une année.
Pourriez-vous préciser un peu plus le type d'accompagnement que Refuge offre aux jeunes LGBTQ+?
Oui. Donc, de base, c'est un hébergement. Ils sont logés dans un appartement. Et l'accompagnement social qui est dit, c'est des suivis avec une travailleuse sociale. Et ils ont aussi la possibilité d'avoir un suivi avec une psychologue qui est externe. Et sinon, il y a des moments conviviaux avec une équipe de bénévoles. Et ils ont aussi un contrat à respecter par rapport à des engagements, des projets de vie, des règles, bien sûr, de conduite dans l'association et dans l'appartement.
Est-ce que vous pouvez aussi un peu nous dire, dans le parcours de ces jeunes, comment ils sont amenés à entrer au refuge? Est-ce que c'est une démarche volontaire? Est-ce qu'ils sont orientés par des proches de l'entourage, des services sociaux?
Oui, c'est plus une démarche volontaire après une décohabitation familiale. Donc, souvent, il y a eu des conflits dans le milieu familial et ils sont amenés à quitter. Parfois, ils sont aussi rejetés, mais il y a quand même cette espèce de récit populaire des jeunes qui sont rejetés immédiatement après l'annonce de leur identité, ce qui est un peu à nuancer, je crois, dans les trajectoires des jeunes que moi, j'ai rencontrés parce que ça se présente plus comme une accumulation, disons, de manque d'espace pour vivre son identité. Et des conflits par rapport, par exemple, à des violences qui sont vécues à l'école et qui sont ignorées par les membres de la famille, mais qui fait quand même qu'il y a une absence de réponse par rapport à ces violences. Et du coup, ce regard, leur position sociale est plus tenable. Et pour utiliser leurs mots, il y en a qui, justement, qui disent « j'en pouvais plus, je suis partie, j'ai pris mes choses, je suis partie ». Il y en a aussi, par contre, qui n'ont plus le choix. Leur sécurité était parfois en jeu, par exemple, par rapport à des violences, et ils ont dû partir. Mais ce n'est pas ce qui était prégnant, en fait, dans les trajectoires que moi, j'ai pu voir. C'était plus complexe qu'un rejet immédiat. C'était vraiment une accumulation de conflits qui peuvent être, a priori, qui ne sont pas nécessairement en lien avec l'identité, comme par exemple un jeune qui va lâcher l'école, qui va abandonner l'école. Et finalement, bien, en fait, quand on creuse, ils vivaient beaucoup d'harcèlement à l'école et c'était méconnu. Mais pourquoi ils vivaient le harcèlement? C'est les gens qui vivent du harcèlement à l'école, c'est pas arbitraire, c'est quand même structurel.
Et vous faites votre doctorat en géographie.
Oui.
On se demande alors comment vous articulez, comment vous travaillez avec la question de la spatialité de ces phénomènes.
En fait, ça se présente dans la façon dont les violences se divisent. Ils se divisent spatialement dans différents espaces. Et elles sont aussi différentes en fonction de la spatialisation. Donc, par exemple, dans la famille, c'est un certain type de violence physique, psychologique et sociale, mais qui ne sont pas nécessairement perpétrées par la famille. Parfois dans le quartier ou à l'école, comme je disais. Mais ensuite, lorsqu'ils arrivent au refuge, c'est plus des violences structurelles. Donc, spatialement, en plus, l'espace spatial peut influencer quel type de violence ils vivent. Et de façon spatiale aussi, il y a, par rapport aux violences, une espèce de rétrécissement de l'espace à eux, l'espace où ils peuvent vivre leur identité.
Et est-ce que vous pouvez alors nous présenter un peu, au travers des trajectoires de ces jeunes, les différents espaces de violence qu'ils ont traversés ?
Alors, il y a les violences psychologiques qui sont parfois sous forme de menaces ou sous forme de mégenrage même, refus de mégenrage par exemple par les parents. Ensuite, il y a aussi les violences physiques, les violences sexuelles qui peuvent arriver aussi dans la famille, donc sous forme d'agression sexuelle. Les violences structurelles qui sont au niveau des structures, de la construction des structures, donc plus ça va se retrouver plus au niveau des démarches que les jeunes essaient de faire, qui vont avoir des barrières supplémentaires à cause de leur identité LGBT. Et enfin, le troisième espace dont j'ai parlé, les relations interpersonnelles. Ça, ce que j'ai vu beaucoup, c'est les violences sexuelles, donc encore des agressions sexuelles, mais dans un autre espace, donc celui des relations interpersonnelles.
On parle alors de violences physiques, de violences psychologiques et de violences symboliques.
Oui, exactement.
Et toutes ces violences et ces différents espaces, ce qui est important de comprendre, c'est aussi qu'ils sont entremêlés, mais qu'ils se distinguent aussi. Enfin, il y a une distinction, mais parfois aussi, les types de violences peuvent se retrouver dans différents espaces, c'est ça ?
Oui, exact. Les différents types de violences, ils peuvent être entrecoupés. Et en fait, là, ce que j'ai énuméré, c'est ceux que moi, j'ai le plus vu. Par exemple, dans les violences interpersonnelles, il peut y avoir des violences physiques aussi. Mais ce que moi, j'ai vu, c'est beaucoup des violences sexuelles dans les trajectoires des jeunes. Donc après, là, il y avait vraiment ce que j'ai observé. Et pendant qu'ils habitent au refuge, c'est plus des violences structurelles qu'ils vivent. Alors que quand c'est dans la famille, là, il y a des violences physiques, parfois des violences sexuelles et des violences psychologiques, mais qui ne sont pas nécessairement perpétrées directement par la famille, parfois par des membres du quartier ou parfois à l'école, dans d'autres environnements, mais alors que les jeunes habitent au sein du milieu familial.
Et justement, pour rebondir sur cette question du rôle de la famille, on entend souvent le rôle protecteur que peut avoir la famille dans la conservation des liens sociaux, dans les espaces de socialisation, etc. Mais ce que vous montrez aussi, c'est que la famille peut être un lieu de violence et de légitimation de cette violence.
Oui, alors ça nuance un peu le récit populaire des familles qui rejettent leur enfant au moment de l'annonce de leur identité, mais ils peuvent légitimer en tout cas certaines violences. Ils peuvent parfois aussi la perpétrer, soit les parents, les frères, surtout les hommes des familles, les beaux-pères, qui vont perpétrer des violences sur les jeunes LGBTI+. Après, il y a aussi le fait que des violences peuvent être méconnues par la famille, comme par exemple ce que je donnais tantôt, l'exemple de l'intimidation. Les parents peuvent ne pas savoir et ne pas agir non plus. Donc ça participe aussi à une légitimation des violences dans la famille, qui les pousse ensuite à penser à un autre milieu de vie, à penser à la quête d'un espace à soi qui est ailleurs, où ils peuvent vivre leur identité.
Et quel est alors ce lien que vous faites entre la spatialisation des violences et le rétrécissement de ce que vous appelez l'espace à soi?
En fait, le lien passe un peu par la légitimation des violences, par le fait que la façon dont les violences interagissent avec l'espace se rétrécit jusqu'à ce qu'il reste que le corps sur lequel ils peuvent agir. Et parfois, malheureusement, c'est par des comportements autodestructeurs. Et en fait, la légitimation, c'est que la façon dont on perçoit les violences, le message qu'on leur envoie par rapport aux violences qu'ils vivent, eh bien, parfois, ils l'adoptent. Parce que si on ne fait rien, par exemple, ou qu'on laisse entendre que ces violences sont c'est jamais acceptable, mais je veux dire, si on laisse entendre que personne ne fait rien et qu'ils sont soi-disant acceptables, on leur envoie le message que c'est correct, en fait, qu'il n'y a rien d'anormal, il n'y a rien à faire par rapport à ça, il n'y a pas d'action à prendre. Et du coup, eux, ils intègrent ce message que ces violences, ils sont presque légitimes et ils l'intègrent par rapport à eux-mêmes dans le petit espace qui finit par rétrécir, et ils finissent par le mettre en corps. Donc, ce que j'appelle la mise en corps des violences. Et du coup, ça devient des comportements autodestructeurs qui sont parfois des tentatives de suicide, parfois de l'automutilation, parfois des restrictions alimentaires, parfois des conduites sexuelles à risque et parfois de la consommation d'alcool ou de drogue.
Est-ce que vous auriez des exemples au travers des trajectoires de jeunes pour illustrer un peu ces différents types de violences dans ces différents espaces? Est-ce que vous avez un peu des exemples types comme ça pour éclairer tout ça?
Oui, par exemple, on peut penser à une jeune femme trans qui parle de son identité à sa famille, qui a un soutien, par exemple, de ses sœurs, de son père, mais que, par exemple, au niveau de sa mère, c'est plus difficile. Sa mère, elle continue de la mégenrer. Et elle, pendant qu'elle est dans sa famille, elle a le rôle de s'occuper beaucoup de ses frères et sœurs. Et le rôle qu'elle a dans sa famille l'empêche de faire les démarches qu'elle aurait besoin pour une prise en charge de sa transition. Parce qu'elle, dans son cas, les transitions peuvent être différentes pour chaque personne, mais dans son cas, elle voulait une prise en charge médicale avec un médecin et un psychiatre. Et pendant qu'elle était dans son milieu familial, elle n'a pas trouvé l'espace, si je peux dire, pour mettre ça en place. Et elle vivait du coup des violences psychologiques de la part de ses parents qui avaient du mal à accepter son identité. Elle disait par exemple, si je pense à un cas précis, elle disait par contre que ses parents acceptaient en surface son identité, mais qu'après dans les faits, elle se retrouvait un peu sans réponse, sans soutien pour sa prise en charge. Et du coup, c'est ça qui l'a amenée à quitter le domicile familial pour se rendre au refuge et ensuite commencer une nouvelle prise en charge et se concentrer sur ses démarches.
C'est-à-dire que les ruptures familiales ne doivent pas être forcément de l'ordre de l'obligation, enfin, obliger la personne en fait de quitter le foyer familial à cause de son identité genre immédiatement, mais ça peut être des formes de ruptures beaucoup plus subtiles, beaucoup plus discrètes, qui conduisent une personne en fait de quitter le foyer familial malgré ses choix.
Exactement. Je pense pas que j'utiliserais même le mot rupture parce que c'est plus une mise à distance avec la famille pour se permettre de trouver un espace à soi pour vivre son identité. Et parfois, c'est différencier du rôle qu'ils avaient qui ne voulaient pas ce regard alors qu'ils habitaient dans leur famille. Mais pour la majorité et presque tous les jeunes, il y a des liens qui sont maintenus, souvent avec les femmes dans les familles, souvent avec les sœurs, cousines. Donc, c'est pour ça que je ne parlerai pas nécessairement d'une rupture avec le milieu familial.
Vous écoutez Penser les suicides, le podcast. Laurence Lamarche, vous montrez que cette violence est aussi spatiale, qu'elle s'incorpore quand l'espace à soi des jeunes LGBTQIA+ du refuge se rétrécit, jusqu'à ne plus devenir que leur corps, comme un peu un dernier espace à investir pour exprimer sa souffrance. Et vous ne travaillez pas directement sur les questions des conduites suicidaires. Alors comment en êtes-vous venu à les intégrer dans votre recherche?
En fait, c'est pas un lien direct avec mon sujet de thèse, justement, mais c'est que c'est vraiment omniprésent dans les trajectoires des jeunes que j'ai rencontrés. Et c'est omniprésent dans les différents espaces. Une fois qu'ils arrivent au refuge, après la décohabitation familiale, ça semble aller mieux pendant un moment. Ils font certaines démarches. Et ensuite, il y a quand même souvent des retours à ces comportements autodestructeurs lorsque, justement, il y a d'autres formes de violence qui arrivent.
Comment alors l'association traite ce type de questions de comportement auto-agressif ou de tentative de suicide?
Normalement, dans les critères de sélection, il ne devrait pas y avoir de conduite suicidaire parce qu'en fait, ça ne représente pas quelque chose qu'ils peuvent gérer à une travailleuse sociale et une équipe de bénévoles qui n'est pas là 24 heures sur 24. Donc, du coup, c'est un peu camouflé. C'est un peu comme si ça n'existait pas. Ou alors, quand ça existe, c'est un peu dans l'urgence et c'est géré par l'équipe de bénévoles. C'est géré au mieux. Après, lorsqu'il y a des comportements suicidaires, ils sont bien amenés dans des institutions, dans des prises en charge médicales et tout. Mais de base, c'est un peu comme si ça n'existait pas. On veut pas... Ça fait peur, en fait, comme risque, autant comme enquêtrice, comme bénévole ou comme travailleurs sociaux.
Vous nous avez parlé à plusieurs reprises des violences, des comportements autodestructeurs et de ce que vous appelez la mise en corps. Est-ce que cette mise en corps de la violence est une incorporation des différents types de violences que les jeunes subissent au travers des différents espaces? Ou est-ce que c'est un moyen aussi pour elles et pour eux de réaffirmer une identité ou de se réapproprier un peu son corps?
Je pense que ça vient un peu des deux, et, évidemment, mais je pense aussi que ça dépend de chaque trajectoire, c'est pas homogène, mais il y a aussi le fait que, j'irais même jusqu'à dire que l'incorporation concerne les violences, mais aussi la légitimation des violences, donc ils adoptent un peu le regard que les autres ont envers eux, ils comprennent la position sociale dans laquelle ils sont mis dans différents espaces, et ensuite ils la mettent en corps, et après s'ils avaient d'autres espaces, pour mettre en corps, peut-être que ce ne serait pas des comportements autodestructeurs, justement, s'ils avaient des espaces à eux, des espaces où ils pouvaient vivre leur identité et être un peu protégés de différents types de violences. Peut-être que ça ne serait pas sur leur corps, ça, il faudrait tester.
Et donc, ces espaces à eux, c'est à la fois des espaces symboliques, mais aussi des espaces matériels, c'est ça?
Oui, ben, ça peut se présenter des deux façons. Après, comme le corps devient un peu leur seul espace, ça, c'est à la fois symbolique et à la fois matériel, disons, mais ils peuvent trouver ce genre d'espace. Si ce n'est pas dans la famille, après, ils espèrent, dans cette quête d'espace, le trouver au sein de l'association du refuge. Et ensuite, lorsqu'ils quittent le refuge, ils espèrent avoir leur petit espace à eux, souvent sous forme de logement.
Dans vos travaux, il y a des éléments qui parlent, en fait, de violences structurelles, de violences envers soi-même, envers les autres, et d'autres types de violences, un continuum de violences, on pourrait même le nommer. On se demande alors, en vous écoutant, si vous associez ces types de violences avec l'homophobie, par exemple, ou violence déjà vécue, en dehors de ces structures.
Quand j'utilise le terme violence structurelle, je parle de violences qui sont au niveau de même la construction des structures, la façon dont les structures elles sont construites. Et ce que tu parlais sur l'homophobie, justement, c'est pas n'importe qui est ciblé dans les violences à l'école. C'est un résultat de comment les structures sont construites, comment le système est construit, et ensuite, après, comment on regarde aussi ces violences, parce que ça veut dire que si elles se poursuivent, ces violences sont un peu banalisées ou qu'il y a peu de choses qui sont faites par rapport à ça, parce que, oui, mais ça arrive tellement tout le temps, c'est fréquent, ça arrive un peu partout, donc un peu comme si on était impuissant par rapport à ces violences.
Alors, d'une manière un peu tordue, quelqu'un pourrait dire que, puisque c'est des personnes qui ont vécu de violences, et alors des personnes traumatisées ou en difficulté ou avec des questions de soucis en fait de santé mentale, leur suicide en fait ou leur tentative de suicide, ils viennent d'une manière fatale, naturelle, difficile à empêcher. Est-ce que vous avez constaté que les institutions ou les associations que vous avez fréquentées, est-ce qu'ils reproduisent cette type de logique?
Pas directement. J'ai pas l'impression que les structures et parfois dans une approche qui est un peu parfois surmédicale ou surpsychologisée, ils vont mettre l'emphase parfois sur des facteurs individuels et du coup responsabiliser les jeunes pour justement des situations dans lesquelles ils se trouvent et pour des démarches qu'ils ne font pas ou qu'ils n'arrivent pas à faire ou par exemple dans trouver un emploi ou trouver un logement. Il y a des choses derrière qui sont structurelles, mais si on leur dit pas, par exemple, que ben oui, mais peut-être que ça va être un peu plus difficile en fait pour toi de trouver un emploi si tu te présentes habillée en femme et que tu as des caractéristiques biologiques masculines, peut-être que ça va être plus difficile. Et si on prend pas ça en compte non plus après, eux autres, ils vont se sentir responsables de cette situation, ça va les dévaloriser de pas être capable de trouver un emploi dans les mêmes temps que ce qui est attendu, quoi.
C'est-à-dire qu'au-delà de tous les efforts qu'on peut faire pour trouver un emploi stable, vivre en autonomie, vivre pense au salaire, avoir une vie sociale bien alimentée, c'est-à-dire que ces personnes-là, elles font face systématiquement à des violences et à des exclusions de tout ce lieu en fait, qui peut leur fournir des liens sociaux protecteurs.
Oui, oui, oui. Et aussi, c'est souvent, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est souvent invisible, c'est souvent camouflé, c'est souvent non dit. Aujourd'hui, on a la croyance qu'il y a beaucoup de problèmes par rapport aux personnes LGBT qui sont réglées, quoi. Mais alors que finalement, dans les faits, les personnes dans les milieux de travail, par exemple, lorsqu'ils se trouvent un emploi, ils vont, par exemple, garder leur ancienne identité pour aller au travail. Ils vont mettre toutes sortes de choses derrière qui les font souffrir et qui font que parfois, ils ont du mal à maintenir leur emploi. Et du coup, en retour, ils sont encore responsabilisés pour, par exemple, la perte d'un emploi, alors qu'ils vivaient beaucoup de difficultés au sein de cet emploi. Ils étaient un peu stigmatisés.
Et puis, il faut parler aussi de la qualité de l'emploi, c'est-à-dire la stabilité, les revenus, les qualifications, ce qu'on peut avoir un avenir financier stable. C'est une question de genre, d'identité genre, transgenre ou d'autres identités, en fait, d'orientation sexuelle. Mais c'est aussi des questions des classes sociales et de parcours, j'imagine, scolaire.
Oui, exact. Il y en a beaucoup là-dedans qui n'arrivaient plus à continuer d'aller à l'école à cause des violences qui étaient vécues et qui ont quitté l'école tôt. Et du coup, après, il y en a beaucoup qui parlent de retourner à l'école, de recommencer un projet. Mais de base, il n'y en a pas beaucoup qui ont pu continuer ou ou du moins ils ont continué, mais en vivant beaucoup d'intimidation, d'harcèlement et qui les ont fait beaucoup souffrir.
Ce que vous mettez en avant à travers ces différents espaces aussi, c'est la question des trajectoires et donc du temps. Et que le moment où vous observez ces jeunes-là, c'est un temps dans leur trajectoire, mais qu'après aussi, ils vont s'inscrire dans d'autres espaces et subir potentiellement d'autres violences. Mais est-ce que vous avez remarqué que tout de même, malgré la violence institutionnelle qui peut être exercée par l'association, quand même un espèce de recouvrement où est-ce que le refuge a permis un retour de l'espace à soi chez ces jeunes un peu? Ou est-ce que c'est juste un petit îlot au milieu d'un océan de violence?
Non, je pense que pour certains jeunes, ça a été aidant. Et ce qui donne une bonne indice de ça, c'est le fait que les jeunes, ils veulent rester plus longtemps. Ils ne retournent pas nécessairement dans leur milieu familial après, alors qu'ils n'ont pas nécessairement d'autres solutions. Donc, c'est vraiment un tremplin qu'il faut se saisir, mais juste rapidement. Et c'est difficile de s'en saisir rapidement avec les barrières structurelles qui font face, alors que pour certains, dans leur milieu familial, ils ne leur faisaient pas encore face à ces barrières. Donc, c'est aussi une espèce d'apprentissage de « Oula, OK, en fait, ça va être difficile de me trouver un emploi, finalement, peut-être. » Ou « Ah, il faut que je cache cette partie de moi. » C'est une espèce de découverte dans cette quête d'espace à soi.
Et alors, travaillant sur ces questions, ça se déroule comment pour vous, le terrain? Comment vous pouvez qualifier votre terrain?
C'était prenant. Je pense que c'est le mot que j'utilise le plus pour décrire le terrain. C'était très prenant. Après, ce qui m'a aidée, c'est d'avoir justement plusieurs chapeaux, d'être bénévole, de voir les jeunes dans le quotidien, d'être enquêtrice aussi en même temps, mais surtout d'être travailleuse sociale, comme je suis travailleuse sociale de formation. Ça, c'est vraiment un outil qui m'a été essentiel, en fait, pour la réalisation du terrain, que je ne sais pas exactement comment j'aurais fait sans, parce que ça me permettait d'évaluer les risques en même temps, de, justement, par rapport au comportement suicidaire, de ne pas me sentir complètement dépourvue, d'avoir un peu des pistes sur qu'est-ce que je pouvais faire, et aussi d'aider peut-être les jeunes à percevoir les violences comme extérieures à eux, justement, et que la situation dans laquelle ils se trouvent, c'est pas un résultat de facteurs individuels et de pas enregistrer ça non plus, de pas enregistrer ce message, d'essayer d'avoir des façons de pas enregistrer ce message de légitimation des violences, en fait.
Qu'est-ce qui ça fait travailler sur ces sujets, on peut le qualifier un peu difficile ou compliqué ou prenant, pour reprendre votre phrase, mais qu'est-ce qui ça fait alors quand on doit écrire de choses scientifiques, produire en fait des savoirs scientifiques sur ces questions prenantes?
C'est sûr que c'est pas facile. Après, je pense que après avoir récolté les témoignages, les entretiens et les trajectoires, on revient toujours par contre à la motivation de rendre justice à ces trajectoires, d'essayer de mettre en mots ce qu'ils m'ont communiqué. J'essaie au mieux de me dire qu'est-ce qu'ils voudraient qu'il soit dit et de faire attention aussi aux messages que moi j'envoie à travers mes écrits. Mais c'est sûr que c'est pas quelque chose de facile, mais de toujours se remettre à pourquoi on fait ça et aussi pour mettre en lumière qu'ils résistent en fait aux violences. Je pense que c'est important aussi de les montrer comme pas seulement des victimes dans la littérature, mais de montrer qu'ils essaient fort, en fait, de se détacher de la position qu'on leur donne.
Et si on vous pose une question en tant que spécialiste sur la question de violence, de la temporalité, de la spatialité de ce type de violence envers ces jeunes LGBTQ+, qui sont à la recherche des refuges, dans ces refuges, qu'est-ce qu'on doit changer, en fait, en termes de politique publique de la prise en charge des individus? Est-ce que vous auriez quelque chose à suggérer, sans vous que vous engagiez à les appliquer demain? Mais qu'est-ce qu'on devrait faire, nous, en tant que chercheurs-chercheuses, quand on enquête sur ces questions? Qu'est-ce qu'on peut proposer, en fait, pour l'amélioration de la prise en charge de ces individus?
Oui, en fait, c'est une giga question, mais moi, je rêve un peu d'une imbrication entre des professionnels, des travailleurs sociaux et la recherche. Et vraiment, moi, j'avais cette imbrication dans ma tête quand je suis allée en recherche, en me disant que ce serait le meilleur des deux mondes, en fait, de pouvoir collaborer avec des travailleurs sociaux qui sont autant impliqués dans la recherche et aussi, ils sont aussi porteurs de beaucoup de connaissances sur les trajectoires, par exemple, des personnes en difficulté. Et ça évite en plus de questionner beaucoup de personnes parce que, par exemple, une travailleuse sociale peut en avoir vu beaucoup et être au courant de beaucoup de violences structurelles sur le long terme que parfois c'est difficile d'observer sur le terrain en tant qu'enquêtrice toute seule. Ça, et d'un point de vue des politiques publiques, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus, et déjà plus de professionnels. Il faudrait que ce soit, qu'il y ait plus d'encadrement. Il y avait beaucoup de jeunes dans les entretiens qui me disaient « Ah, ça m'a fait du bien de parler et tout, ça m'a fait beaucoup de bien. » Et je me disais « Oui, mais en fait, il faudrait qu'ils aient ça de disponible tout le temps. »
Vous ne travaillez pas sur la théorie classique sociologique durkheimienne, sur la question des typologies, etc. Vos résultats sont très intéressants sans Émile Durkheim. Je me demande alors si vous avez une définition plus ou moins large du suicide ou des comportements suicidaires, parce que vous parlez en fait des comportements autodestructeurs. Est-ce qu'alors en travaillant sur le suicide, on travaille aussi sur les tentatives de suicide? Est-ce qu'on y travaille aussi sur d'autres comportements de violence envers soi?
En fait, la définition, par contre, ça serait la même que je pense qui est utilisée en sociologie. Je ne pense pas qu'il y a tant de définitions du suicide que ça. Après, c'est pour ça que j'utilise le terme comportement autodestructeur. C'est que, justement, dans le cas de ma recherche, il n'y a pas eu de suicide. Mais j'inclus les tentatives de suicide dans les comportements autodestructeurs. Et ensuite, sur le terrain, c'est en fonction de la façon qu'ils m'en parlent aussi. Parfois, je vois de la façon qu'ils m'en parlent que le but, c'est vraiment un peu de se mettre en danger. C'est un peu un test de voir comment je vais réagir, par exemple. Et ça donne des indices aussi sur le fait que, ah oui, c'est pas quelque chose qu'ils font volontairement pour ces démarches, quoi. Par exemple, l'échange de services sexuels, il y en a qui utilisent ça aussi pour se mettre en danger, pour, par exemple, montrer d'une façon qu'ils sont en danger, qu'ils ont besoin de plus, quoi.
Le suicide, en fait, ce n'est pas un phénomène unique. Les tentatives de suicide ne sont pas un phénomène unique précis pour vous, mais ça s'inscrit dans une logique de violence beaucoup plus large, déjà vécue, mais aussi reproduite. Et dans cette manière-là, la définition du suicide, ce ne serait pas une personne qui a envie de se donner la mort et qui met ses moyens pour aboutir à ses résultats, mais c'est aussi la mise en danger ou la mise en douleur de son propre corps en répondant d'une manière à des violences structurelles déjà existantes.
Oui, après, c'est sûr qu'il y a peut-être... En fait, la distinction qui peut être faite parfois, je pense, c'est que tentative de suicide avec but de s'enlever la vie ou tentative de suicide avec... Mais ça, c'est pas toujours clair. Même dans ce qu'ils me disent, eux, une journée, ils vont me dire « Non, c'était pas ça. Je voulais pas vraiment m'enlever la vie. » Alors que, par exemple... finalement, lors de l'entretien, ils vont me dire « Oui, mais j'avais pris des médicaments. C'était plus que pour dormir. » Donc, même ça, ça dit que c'est une mise en danger, mais ça dit pas vraiment qu'ils voulaient arrêter de vivre.
Merci beaucoup, Laurence.
Merci beaucoup.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Pensez
le
suicide.